Radio Prague, les informations.
Václav Klaus et Mirek Topolánek se sont rencontrés au château de Lani. Les sénateurs de l'Odès appuient la coalition gouvernementale envisagée par Topolánek. Le déficit du budget de l'État a été plus important que prévu. Ce 2 janvier, comme le veut la tradition, le président Václav Klaus a invité à un déjeuner solennel donné au château de Lani le premier ministre Mirek Topolánek. Selon Klaus et Topolánek, accompagnés de leurs épouses, les questions politiques n'ont pas été l'unique thème évoqué lors de ce déjeuner. Ainsi, la date de la nomination du nouveau cabinet par le chef de l'État n'a pas été communiquée, même après ce tête-à-tête qui a duré près de 2 heures. Les sénateurs de l'ODS ont exprimé leur soutien au gouvernement de coalition que Mirek Topolánek veut former avec les chrétiens démocrates et les Verts. Dans leur résolution publiée ce mardi, ils appellent à l'unité de leur parti en vue de la mise en valeur des objectifs de programme. Ce mercredi, le président du Sénat, Přemysl Sobotka, informera de cette initiative le président Klaus. Le budget de l'État 2006 s'est soldé d'un déficit de 97,3 milliards de couronnes, ce qui est de plus de 13 milliards supérieur à celui qui avait été approuvé par la Chambre des députés. Selon les économes, ce chiffre ne répond pas à la croissance que l'économie tchèque avait connue au cours de cette période. Près de 2 800 000 téléspectateurs ont suivi cette année le discours du nouvel an du président Václav Klaus, soit un peu moins que l'année écoulée. Le discours, qui a duré une dizaine de minutes, a été retransmis en direct par les 3 télévisions nationales. La République tchèque participera-t-elle à l'exposition universelle Expo 2010 en Chine, oui ou non? C'est ce mercredi que la décision sera prise en réunion ministérielle. L'exposition tchèque à l'Expo 2005 au Japon a attiré près de 1,7 million de spectateurs. Le premier bébé de l'année 2007 en Tchéquie est né 5 secondes après minuit dans un hôpital de Vyškov en Moravie. Il s'agit d'un garçon qui s'appelle René. L'enfant pèse 3280 grammes et mesure 49 centimètres. L'économie tchèque continuera de prospérer aussi en 2007, mais la croissance économique se ralentira et atteindra un peu moins de 5%. Telles sont les prévisions d'analystes interrogées par l'agence de presse Četika. Météo ce mercredi, le jour de fête de Radmila, selon le calendrier tchèque, le ciel demeurera couvert, mais il n'y aura pas de chute de neige, sauf qu'en montagne, peut-être. Les températures d'hiver se situeront autour de 4 degrés. C'était donc le bulletin d'information présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Dans son discours traditionnel du Nouvel An, le président Václav Klaus a appelé à un compromis politique. Les rapports économiques de la République tchèque avec la Roumanie et la Bulgarie, nouveaux pays membres de l'Union européenne. Les réactions tchèques à l'exécution de Saddam Hussein, le 30e anniversaire de la charte 77, tels sont les grands thèmes de cette émission préparée par la section française de Radio Prague et présentée aujourd'hui par Václav Richter. Comme il fallait s'y attendre, c'est la situation politique en République tchèque paralysée par l'impasse post-électorale qui a été le sujet principal du discours traditionnel prononcé par le président Václav Klaus au seuil du Nouvel An. Le bilan politique fait par le chef de l'État a été assez sombre.
Už 7 měsíců nemáme vládu, která by měla důvěru poslanecké
sněmovny. Depuis 7 mois, nous n'avons pas de gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre des députés. Ce qui est un record dont nous ne pouvons pas nous vanter. Probablement personne ne peut être content de nos souffrances post-électorales.
Le président a évoqué les causes et les conséquences de cette situation qui risque de se prolonger encore, car le prochain gouvernement ne dispose pas non plus de la majorité à la Chambre. Selon ses dires, le résultat des dernières élections démontre que la moitié de la population tchèque désire un changement, tandis que l'autre moitié le craint. Les forces de la droite et celles de la gauche sont donc pratiquement égales. Et le président de constater que, au cours de la première moitié de l'année dernière, le gouvernement a été paralysé par l'approche des élections. Dans la seconde moitié, il ne disposait pas du mandat de la Chambre des députés, car les protagonistes de la scène politique n'ont pas été capables de trouver un compromis.
La rivalité sans compromis des conceptions, des idées et des programmes politiques, surtout avant les élections, est indispensable pour la démocratie, mais ne doit pas dégénérer en une guerre civile froide à laquelle ressemble dans une certaine mesure la situation actuelle chez nous.
L'issue de cette impasse politique repose, selon le président, dans un accord constructif des partis politiques. Václav Klaus a insisté également sur l'urgence des réformes que le nouveau gouvernement devrait réaliser. Une partie du discours a été consacrée à nos rapports vis-à-vis de l'Union européenne. Václav Klaus a critiqué le caractère bureaucratique de certaines institutions de l'Union et exhorté à la vigilance face aux tendances à rouvrir le débat sur la Constitution européenne. Il a salué l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, tout en soulignant que ces nouveaux adhérents ne devraient pas être considérés comme des pays de la seconde catégorie. Les protagonistes de la scène politique ont accueilli ce discours plutôt positivement, bien que certains estiment que la métaphore de la guerre froide est un peu exagérée. Le premier ministre Mirek Topolánek voit dans le discours un appel à ce que le futur gouvernement s'engage dans les réformes. Le chef de la social-démocratie, Jiří Paroubek, partage les vues du président sur la situation politique tchèque et se considère lui-même comme la cible de la lutte sans merci qui divise notre scène politique. Il n'est pas d'accord cependant avec les vues du président sur l'Union européenne. Quant au leader du Parti des Verts, Martin Bursík, il souligne qu'en appelant à un compromis, le président a en vue une grande coalition du Parti civique démocrate et de la social-démocratie, solution qui, à son avis, serait fatale pour la réalisation des réformes en République tchèque. La presse s'est montrée beaucoup plus critique face à ce vœu du président. Le commentateur du journal Lidové Noviny, Jan Kubita, reproche au chef de l'État d'avoir prononcé un discours fade qui n'a offensé personne, mais qui n'a rien révélé du nouveau. Dans le journal Mladá Fronta Dnes, le commentateur Martin Komárek affirme que le président a appuyé par ses exhortations aux réformes de facto le programme du nouveau gouvernement de Mirek Topolánek. Quant au journaliste du quotidien Pravo, Martin Hekrdla, il rappelle au président que la Constitution européenne, qu'il refuse, garantirait en réalité dans les pays membres les mesures de restriction qu'il appelle de ses voeux. En 2004, l'Union européenne accueillait en son sein 10 nouveaux membres, dont la Tchéquie. 3 ans plus tard, elle en compte encore 2 de plus, la Bulgarie et la Roumanie, et totalise 27 membres. Quelle est la position de la République tchèque à l'égard des nouveaux venus? Alain Slivinski.
Le nouvel an 2007 a été fêté avec encore plus de joie que d'habitude à Bucarest et à Sofia, les capitales des 2 nouveaux membres de l'Union européenne. La capitale tchèque ressent aussi une certaine satisfaction, car bien que ne faisant pas partie des anciens, la République tchèque devient quand même un aîné dans la grande famille européenne. Avec l'entrée de la Bulgarie et la Roumanie, l'Union européenne compte 492 millions d'habitants et représente le plus important marché commun du monde, 10,9 trillions d'euros. Beaucoup de choses devront encore changer dans les deux pays, surtout dans la sphère juridique et la lutte contre la corruption. Un domaine intéressant pour la Tchéquie, celui des investissements étrangers. Il devrait connaître un développement sans précédent. Dans ce domaine, la République tchèque était le 11e investisseur étranger en Bulgarie, avec un volume de 440 millions d'euros. En Roumanie, ce volume tournait autour des 500 millions d'euros. Les grosses sociétés tchèques, comme le principal producteur et fournisseur d'électricité, ČEZ, n'ont qu'à se réjouir de ce nouvel élargissement de l'Union européenne qui leur offre un nouveau marché. Mais les exportateurs peuvent aussi compter sur une augmentation de leurs ventes à l'étranger. Par exemple, Škoda Auto, Barum Continental ou le fabricant de radiateurs Corrado. Alors que l'ouverture des marchés bulgares et roumains est accueillie avec beaucoup d'optimisme dans l'unanimité par les membres de l'Union, Il n'en est pas de même en ce qui concerne la libre circulation de la main-d'œuvre. La République tchèque et les nouveaux membres de 2004, excepté la Hongrie, ouvrent entièrement leur marché du travail aux Bulgares et aux Roumains. Parmi les anciens, seuls la Finlande et la Suède ne poseront aucun obstacle à l'arrivée de ces nouveaux citoyens européens. Crainte des autres peut être justifiée selon certains spécialistes. En effet, le PIB des deux pays ne se situe qu'à 33% du niveau européen et le salaire moyen n'atteint que les 200 euros. Pour certains économistes tchèques, les travailleurs bulgares et roumains pourraient quand même arriver en grand nombre pour chercher un emploi en Tchéquie, car le niveau de vie est beaucoup plus élevé que dans leur patrie, le PIB tchèque se situant à 73% du niveau européen, et Prague ne pose aucune restriction à leur installation.
Deux sortes de photos à l'ambiance totalement opposée font ce mardi la une des quotidiens tchèques. Celle des festivités du Nouvel An dans le centre de Prague, assez explosive cette fois-ci, ainsi que les photos chocs de Saddam Hussein, la corde au cou au seuil de la mort. Dans ces dossiers, la presse tchèque s'interroge sur les conséquences de l'exécution de l'ancien dictateur irakien, sans oublier d'évoquer les relations commerciales florissantes entre la Tchécoslovaquie communiste et l'Irak de l'époque. Magdalena Hrozinkova.
Un châtiment pour un criminel exceptionnel, une mort trop subite, titrent les principaux quotidiens du pays. La diplomatie tchèque, elle, a pris acte de l'exécution. Pour le ministre des Affaires étrangères, Alexander Vondra, ce fut, je cite, une manière dont l'Irak a réglé ses comptes avec le dictateur qui avait entraîné le pays dans plusieurs guerres insensées et qui avait fait souffrir des gens innocents. Or, pour František Schulz du quotidien Lidové Noviny, il n'est pas question d'une véritable réflexion sur le passé en Irak. D'après lui, la pendaison de Saddam fut une erreur car, je cite, « l'ancien dirigeant irakien a été condamné pour un de ses crimes minoritaires » entre guillemets, et non pas pour une multitude d'autres plus graves qui furent ainsi balayés d'un revers de main. Nous qui n'avons toujours pas réussi à nous positionner par rapport à notre passé communiste, remarque l'auteur, nous devrions être sensibles à cette attitude. À l'instar de leurs confrères européens, les commentateurs tchèques sont quasi unanimes. La mort de Saddam Hussein ne représente en soi aucune évolution pour l'Irak. Mais elle pourrait tout de même affaiblir une partie de l'opposition, estime le journal Mada Frontadnes, celle qui est constituée par les membres de la tribu de Saddam, jadis privilégiés et occupant des postes importants dans la police et dans l'armée. Ce sont eux qui ont perdu le plus après l'invasion américaine. Après l'exécution, ils n'ont plus aucun espoir. Soit ils s'intègrent à la nouvelle société irakienne, soit ils restent marginalisés, écrit Stanislav Drahni dans Mada Frontadnes. Revenons enfin au quotidien Lidové Noviny qui retrace pour l'occasion l'histoire des relations tchéco-irakiennes. Le journal la résume avec sarcasme en quelques mots. La fraternité socialiste, les dés de la guerre. En effet, si la Tchécoslovaquie envoyait il y a 20 ans à Bagdad des constructeurs de raffineries de pétrole ou d'usines de traitement des eaux, depuis 2003, la République tchèque y déploie ses soldats. Actuellement, ils sont une centaine à surveiller la base militaire Al-Basra à Bassora.
Il y a tout juste 30 ans, le 1er janvier 1977, le mouvement de dissidence défendant les droits de l'homme dans l'ancienne Tchécoslovaquie publiait son premier document, la déclaration de la Charte 77. Retour sur les débuts de la Charte avec Jaka Gisiblova.
La Charte 77 fut le premier document officiel formulé par la dissidence tchécoslovaque opposée à l'occupation soviétique et à l'instauration de la politique de normalisation. Sa force et son danger pour le régime consistaient dans le fait qu'elle lui demandait une évidence, le respect des articles de sa propre constitution relatifs aux droits de l'homme et ancré dans l'acte final de la conférence d'Helsinki de 1975 dont il était le signataire. Une impulsion à la création de la charte a été la publication de pactes internationaux sur les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, deux documents que la Tchécoslovaquie avait adoptés en mars 1976 sans que leurs principes soient introduits dans la pratique. La charte a ainsi devenu une conscience démocratique de la nation et une opposition permanente aux pratiques totalitaires. Elle n'était pas une organisation, mais une communauté non formelle, ouverte à tous, sans distinction de conviction, de profession et de foi. Durant son existence, sa déclaration a été signée par plus de 1800 citoyens. Parmi les premiers porte-parole, il y avait le professeur Jan Patočka et l'ancien président Václav Havel. L'une des principales activités a été la publication de documents numérotés. Il s'agissait de prises de position, de protestations et de réactions à l'évolution de la situation qui devait être remise par les porte-parole aux organes de l'État et à la presse. La police communiste STB faisant tout pour l'empêcher, ces documents ne se propageaient que par l'intermédiaire du Samizdat et le réseau de Radio Europe Libre, la Voix de l'Amérique et la BBC. Le 7 janvier 1977, le texte de la déclaration est paru dans des quotidiens européens dont Le Monde. Aucun média tchécoslovaque ne l'a publié. Entre 1977 et 1989, le nombre de documents publiés atteint le chiffre de 572. D'après l'une des activistes, Irina Chiklova, devenir signataire de la charte était une activité libératrice, un moyen de récupérer sa dignité. C'était aussi un acte d'héroïsme. Václav Havel a été condamné à 3 ans de prison et Jan Patočka est mort des suites d'un interrogatoire. La charte n'avait pas d'ambition politique. Elle voulait mener un dialogue avec le régime. Ce dernier la percevait toutefois comme une menace mettant en danger sa position. Une campagne de propagande a été déclenchée. Des artistes réunis au Théâtre national ont adopté la dite anti-charte. Des dissidents étaient persécutés et contraints à l'émigration. Quand le nombre de signataires emprisonnés ne cessait d'augmenter, le comité de défense des personnes injustement poursuivies, le VONS, a été créé dans le pays. À l'étranger, il existait des centres de solidarité et de défense de la charte ayant leur siège à Paris, à Stockholm et ailleurs. La charte a officiellement terminé ses activités le 3 novembre 1992 par la constatation qu'elle avait joué son rôle historique. L'héritage de la charte 77 sera le thème de plusieurs colloques, dont celui organisé par le Centre tchèque à Paris le 25 janvier prochain. Nous reviendrons sur le 30e anniversaire de la charte également dans nos prochaines émissions.
Merci d'avoir écouté ce fait événement qui vous a été présenté par Václav Richter.
73 de Radio Prague. Alain Slivinski.
Bienvenue à l'écoute de ce premier 73 de Radio Prague du tout début de l'année 2007. Début de l'année, donc, nous nous devons de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse nouvelle année. Normalement, nous aurions dû avoir Roland Paget et sa chronique au micro, mais ce sera pour la prochaine fois dans 15 jours. Je vous propose la présentation de ce qu'il y aura de nouveau sur les ondes de Radio Prague en 2007 et je vous présenterai encore une fois la nouvelle série de cartes QSL 2007 que vous commencerez donc à recevoir pour vos rapports d'écoute. Eh bien, en 2007 et à partir du début janvier, le 8 plus exactement, il y aura une petite révolution sur les ondes, mais disons plutôt dans les studios, dans le travail des rédacteurs, dans la réalisation des émissions. Comme vous le savez certainement, nous diffusons en général les informations en direct, le reste est enregistré. À partir du 8 janvier, toute l'émission, du moins la première, sera diffusée en direct, naturellement à part les chroniques et les rubriques qui seront toujours enregistrées. Pourtant, la présentation, à partir des informations jusqu'à la fin, sera en direct. Un travail un peu plus vivant, certainement, mais qui sera beaucoup plus difficile au niveau de la réalisation. Pourtant, je dois dire tout de suite que cela ne concernera pas les émissions en langue française, malheureusement. En effet, la première de Radio Prague en français a lieu à 18h30, comme vous le savez certainement aussi. Cela rend pratiquement impossible sa réalisation en direct. Le personnel devrait en effet travailler dans la soirée seulement, ce qui n'est pas permis par le code du travail. Vous nous direz peut-être, et pourquoi pas faire la première à 7h, 9h30 ? Tout simplement parce que cette première ne pourrait présenter que des informations quelque peu passées de la journée précédente, éventuellement de la soirée. Comme on le sait, pas tellement d'actualité dans la soirée en Tchéquie. Donc la première sera conservée à 18h30 pour l'instant, et tant pis pour le direct. À moins que les horaires et fréquences ne soient remaniés pour avoir une première un peu plus tôt, à 16h30 par exemple, une heure de diffusion que Radio Prague avait dans le temps. Pourtant, ce n'est pas une heure idéale et favorable, car l'écoute est très faible. De toute manière, pour de nouveaux horaires, il nous faudra attendre le passage à l'heure d'été, le dernier week-end du mois de mars et la nouvelle grille. Tout cela dépend de la répartition des fréquences et des heures de diffusion sur le plan international. Un petit rappel maintenant, car nous les avons déjà présentés, des nouvelles cartes QSL que vous recevrez en 2007. La série est consacrée au tour panoramique de Bohême et Moravie. La première carte représente la tour de Blanic. La tour panoramique se dresse sur le mont légendaire de Blanic, 638 mètres d'altitude, en Bohême centrale. Elle possède une hauteur de 30 mètres et a été construite en 1943 par le club des touristes tchèques. Elle présente la forme d'une tour hussite en bois et se dresse à l'emplacement d'une ancienne tour panoramique construite en 1896. Sur la seconde QSL, on peut admirer la tour de Dechinski-Sniejnik. La tour panoramique a été construite en 1864 près de Děčín en Bohême du Nord. À l'origine, elle servait d'observatoire géographique. En 1936, on y capta pour la première fois un signal de télévision diffusé des Jeux Olympiques de Berlin. La troisième QSL représente la tour de Kleck. Elle fait partie des plus anciennes tours panoramiques et se dresse sur le mont le plus élevé de la forêt de Blansko, à une altitude de 1060 mètres, non loin de Český Krumlov, en Bohême du Sud. Sa construction a été commandée par le prince Josef Schwarzenberg. Sur la quatrième carte QSL de la série 2007, nous vous proposons Krasny Dvůr, ou Podbožan. La tour panoramique se trouve dans le vaste parc anglais du château de Krasny Dvůr, ce qui veut dire « belle cour », en Bohême du Nord. Elle a été construite en 1820 et s'élève à une hauteur de 20 mètres. Le minaret de Lednice, une tour bien connue des touristes tchèques et étrangers. C'est le sujet de la cinquième carte QSL. La construction date de 1802 et c'est la plus ancienne tour panoramique en République tchèque. Elle fait partie de l'ensemble des châteaux de Lednice-Valtice en Moravie du Sud, construits par la famille noble des Liechtenstein. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous venez à Prague, il est fort probable que vous montiez sur la tour panoramique de Pečín, dont la photo se trouve sur la sixième carte QSL. C'est une des attractions touristiques de Prague. Elle se trouve sur la colline de Pečín, autrement appelée aussi la colline des Amoureux, à une altitude de 327 mètres. Elle a été construite sur l'initiative du club des touristes tchèques en 1891 et s'élève à une hauteur de 60 mètres. C'est une copie plus petite de la tour Eiffel. Hai ou Hachet, un très bon nom, qui veut dire « bosquet près de H », le nom de la tour panoramique située le plus à l'ouest de la République tchèque. Elle a été construite en 1904 et présente 4 étages, se dresse à une hauteur de 34 mètres. Vous la trouverez sur la 7e carte QSL de la série 2007 de Radio Prague. Et pour terminer, la 8e carte qui nous amène dans les montagnes. La tour se trouve en Moravie-Silésie, au sommet du mont Praded, à une altitude de 1491 mètres. Elle a été construite à l'emplacement d'une ancienne tour panoramique en pierre. Dans les années 80 du XXe siècle, on y a construit un émetteur de télévision s'élevant à la hauteur de 162 mètres. Eh bien voilà, il ne vous reste plus qu'à nous envoyer un grand nombre de rapports d'écoute pour recevoir les QSL 2007 de Radio Prague. Rendez-vous dans 15 jours et meilleur 73. C'est ainsi que prend fin l'émission en langue française sur les ondes de Radio Prague. Thank you.
listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern